Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h02 sur RMC, RMC Story, c'est la dernière partie d'Estelle Midi. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Perico Légas, Anne-Sophie Saint-Père et Daniel Riolo. Avec vous, bien sûr, au 32-16 pour répondre à cette question. Doit-on interdire le licenciement des seniors en entreprise? Dites-nous, par exemple, si on vous a mis à la porte alors que vous aviez 61 ou 62 ans, ou si, au contraire, vous êtes chef d'entreprise et que vous recrutez plutôt des seniors grâce à leur expérience. On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. Il y aura RMC sans pour vous. On va revenir sur la prime carburant de 100 euros que 10 millions de Français devaient recevoir. Mais bien sûr, il y a énormément de quoi qu'on essaiera de résoudre tout ça grâce à Amélie Rosic. Et puis on terminera, Rémi, avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
On parlera notamment des sites touristiques les plus visités en France. Et puis je vous ferai commenter.
La Tour Eiffel.
Non, pas du tout.
Ça m'étonne.
Et, enfin, pas loin, mais c'est pas ça.
Ah oui.
Et je vous parlerai également, je vous ferai réagir sur la coupure du jour, là. Les syndicalistes de la CGT qui ont coupé le courant sur le chantier du village olympique.
Ça va beaucoup faire, Daniel.
RMC Estelle Midi.
On va poursuivre Estelle Midi avec le chiffre du jour. Seuls 56% des 54-64 ans sont actuellement en emploi en France. Ça pose problème, évidemment, avec le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Actuellement, Rémi, de nombreux seniors sont poussés vers la sortie par les entreprises au travers de plans de départ volontaires.
Oui, et si l'âge légal de départ à la retraite est aujourd'hui fixé à 62 ans et peut-être à 64 ans, dans les faits, de nombreux seniors quittent leur emploi plus tôt. Une récente étude réalisée par l'UNEDIC révèle une nette augmentation des ruptures conventionnelles lorsque les travailleurs atteignent l'âge de 59 ans. Ces ruptures du contrat de travail d'un commun accord avec l'employeur ont représenté en 2021 25% des ouvertures du droit de chômage contre 17% pour les salariés âgés de 56 ans.
Ah oui.
Pourquoi ? Bah, ce phénomène s'explique. Les demandeurs d'emploi de plus de 55 ans peuvent être indemnisés durant 3 ans. Donc vous me suivez ? Vous atteignez l'âge de 55, 56, 57 ans. Mmh. On vous dit, allez, on fait une rupture, on veut plus de toi. Trop âgé. On fait une rupture conventionnelle. Donc, j'ai le droit, du coup, de partir de l'entreprise et de toucher le chômage pendant 3 ans.
D'accord.
Et au-delà de cette durée, il y a une autre mesure. Elle est appelée dispositif de maintien, qui permet aux seniors de bénéficier d'une prolongation de ses droits jusqu'à sa retraite à taux plein, au plus tard 67 ans, sous certaines conditions. Mais
donc
j'ai regardé, elles sont pas très restrictives.
Chômage,
exactement, tu peux rester
dingue,
8 ans au chômage. Preuve également que l'âge légal de départ à la retraite et les règles en matière d'assurance chômage ont un impact direct sur les stratégies des entreprises, plutôt favorables à se séparer de leurs seniors avant 60 ans. Hein, vous avez compris, voilà, on arrive à un certain âge, on dit, mais de toute façon, tu pourras toucher le chômage
Pendant
5 ans, 6 ans, donc pas de souci, on se sépare de toi.
D'accord, et c'est nos impôts qui payent plutôt que les entreprises. Ouais. Alors justement,
on revient au débat de tout à l'heure avec Perico.
Exactement. Faut-il interdire le licenciement des seniors, Perico les gars? Ça éviterait l'assurance chômage de payer pour eux.
Estelle, je vais avoir 64 ans dans 12 jours.
Mais je sais, Perico.
Est-ce que vous me gardez?
Je vous garde, oui, bien sûr.
Un petit peu de temps quand même.
Oui, encore un peu,
Je peux encore servir.
Ouais. Mais sinon, vous avez l'âge de la retraite, donc vous pouvez très bien prendre
l'âge
votre retraite.
J'ai l'âge de la retraite et il y a des gens
vous
qui...
Vous ne coûterez rien à l'assurance chômage.
Non, mais là, j'ai des gens autour de moi qui me sont assez indignés que je n'ai pas pris ma retraite. Et ce que je leur dis, n'ayant jamais travaillé de ma vie, comment voulez-vous que je prenne ma retraite? Voilà. Ça, c'est le problème. Non, mais il y a des emplois, des contrats emploi-retraite où on met la personne, le senior, donc prend sa retraite et on lui donne le complément de salaire, ce qui signifie qu'on continue à profiter d'expérience. Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que souvent, c'est l'âge où le collaborateur a une expérience, une compétence, voilà, et c'est peut-être là où il enrichit l'entreprise le plus. Et c'est
aussi l'âge auquel il est fatigué.
Et alors, mais ce qui serait bien, c'est que les personnes qui se sentent fatiguées usent de ce droit à la retraite, et c'est tout à fait naturel, mais ceux qui ne se sentent pas fatigués, souvent, on les pousse vers la sortie. En même temps, vous avez aussi des croumires et des croutons qui auraient dû partir et qui s'accrochent, et il y en a, et j'en connais aussi, donc il y a tous les cas de figure existent. Mais se priver de la compétence et d'expérience d'un salarié parce qu'il a un âge requis, peut-être qu'il coûte un petit peu plus cher, parce qu'évidemment, c'est pas forcément bon pour l'entreprise et pas forcément pour l'économie du pays. Donc, à regarder au cas par cas. Mais ouvrir une loi qui dirait,
Tu peux plus, par exemple, tu peux pas virer un senior entre 62 et 64 ans, par exemple.
Là, et ça, je trouve que c'est normal parce qu'il faut une protection.
Ah bah donc, t'es pour alors.
Parce que, non, c'est pas ça. Je suis pour, à condition que ce soit utilisé à bon escient. Voilà. Mais vous savez que vous ne retrouvez pas d'emploi. Aujourd'hui, quelqu'un
comprend pas si vous êtes pour ou contre, en fait. Hein.
Je suis. C'est le genre de réforme dont on se dit qu'elle a un sens, à condition qu'elle ne soit appliquée que dans des cas où c'est justifié. comment faire la différence. Et là, je sais, c'est pas à moi de résoudre le problème. Mais je sais que.
Bah, si tu fais une loi, tu vas avoir les gens à partir de 62 ans qui ne peuvent rien faire parce qu'ils sont.
Non, mais dégager quelqu'un
par 55 ans. Tu vas faire la police dans les entreprises privées.
Bah, c'est pour ça. Mais enfin, dégager quelqu'un par 55 ans.
On irait ça, comment ça se passe, là?
Dégager quelqu'un à partir de 50 ans, c'est chômage assuré. La personne ne retrouvera pas de boulot.
C'est clair. Oui, c'est plus compliqué pour elle, ça, c'est sûr. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que justement, bah voilà, il faut empêcher les entreprises de virer les gens entre, allez, 2 ans avant l'âge de la retraite, on va dire?
Alors, je vais apporter une réponse simple. Non, il ne faut pas une nouvelle interdiction des licenciements parce qu'en fait, les licenciements abusifs, ils sont déjà interdits. Ou le fait de pratiquer un harcèlement moral pour pousser les personnes à partir, c'est déjà interdit. Donc, ce qu'il faudrait déjà, c'est appliquer les lois existantes et s'assurer que les entreprises ne pratiquent pas de licenciements abusifs ou de placardisation des salariés dès qu'ils passent 60 ans pour les faire partir. Bon, par ailleurs, d'ailleurs, vous savez très bien que moi, je suis aussi plutôt pour que les salariés seniors puissent prendre leur retraite, mais oui, s'ils doivent travailler, et oui, et puis même on considère qu'on va être senior à partir de 55 ans, il faut que le droit social soit appliqué, et ça implique qu'il y ait des moyens, et notamment des moyens au niveau des prud'hommes, au niveau de la justice, pour pouvoir contester des licenciements qui seraient abusifs, pour pouvoir contester des harcèlements, des mises au placard, ce qui aujourd'hui est très compliqué, parce qu'à la fois il y a une surcharge des tribunaux, et en plus les sanctions sont très mal appliquées.
Daniel Riolo, est-ce que il faut quand même contraindre les entreprises, alors peut-être pas à interdire les licenciements, parce que là j'ai bien compris que vous étiez contre, mais à faire quelque chose pour les seniors, par exemple. Vous n'êtes pas vieux, Daniel, mais vous avez 52 ans. Est-ce que vous avez fait des formations durant votre carrière, par exemple?
Ah, peut-être pas assez.
Oui, bah non.
C'est peut-être pas assez.
Moi, quand j'ai 46 ans, j'ai jamais fait une formation de quoi que ce soit, par exemple.
Pour répondre à la question, Estelle, moi, je crois pas, comme disait Perico tout à l'heure, que, on se prive d'une compétence. Si réellement la personne est importante, je crois pas qu'on se privera de lui. Je pense que ce qui pousse, certains employeurs à manœuvrer pour, en gros, pousser dehors, c'est souvent pour une économie de salaire.
Bah oui.
En disant.
Parce que les vieux coûtent plus cher.
Entre guillemets, ça, le vieux, pardon.
Bah, si.
À 55 ans, je sais pas si t'es vieux.
Mais tu coûtes plus cher à 55 ans qu'à
55 ans. Moi, bientôt, je t'assure que le moment où tu vas dire que je suis vieux, je vais craquer.
Non, mais pas du tout. Enfin, si t'as le même salaire à 55 ans que quand t'es rentré dans la boîte à 25 ans, c'est qu'il y a un problème, hein.
Bah oui. Absolument. Donc, c'est parce qu'on vise une économie.
Exactement. Bah oui, bien
Donc,
sûr.
Donc, ce que j'appelais une manœuvre. Si dans 3 ans, on estime que je n'apporte plus rien, à l'émission que je fais quotidiennement, et qu'on se dit, on va prendre un jeune qui va apporter autant que lui, et on va le payer la moitié. Est-ce qu'on sera privé d'une compétence? Pas. Le patron aura estimé que je n'apportais plus rien.
Mais le patron estime quand même, dans beaucoup de cas, que tu n'apportes plus rien après 55 ans. Quoi.
Donc, dans ces cas-là, son produit sera dévalué, et il en pâtira économiquement. Donc je suis pas sûr qu'on se prive d'une compétence. Moi je crois qu'à un moment on se dit l'autre il est interchangeable, finalement il apportait plus grand chose, donc on va chercher un jeune qu'on va payer moins cher.
Mais c'est une catastrophe.
Je dis pas que j'approuve la manœuvre, hein, attention. C'est pas vrai, j'essaye de me mettre.
C'est logique pour toi. C'est rationnel.
Non, c'est pas forcément logique. J'essaye de comprendre la réflexion.
D'accord.
Je pense qu'il y a de ça derrière, derrière ce dont on est en train de parler.
Ah bah c'est sûr que si les seniors coûtaient moins cher.
Je voulais répondre à Perico qui dit on peut pas se priver d'une compétence.
Ça serait dommage.
Évidemment que ça serait dommage.
Ça,
mais je crois pas qu'on le fasse.
Ça arrive.
Alors, on est avec Jean-François, qui est
l'entreprise en souffrira.
Ex-restaurateur à Vincennes. Bonjour Jean-François.
Bonjour à tous.
Ah, Jean-François, vous avez une voix plutôt jeune, vous avez quel âge?
51.
Oui, bah c'est pas mal. Jean-François, est-ce que pour vous, il faut interdire de licencier des seniors, tiens, justement?
Absolument pas.
Ah.
Absolument pas. On a déjà fait cette erreur, ce qui fait que quand on a mis une borne d'âge concernant la limite de licenciement, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'on a débauché juste auparavant. Un peu avant. Donc, typiquement, 55 ans interdiction de licencier, du coup, 54 ans, vous étiez dehors.
Tu dégages.
Ah oui, c'est ça. Ah oui, donc ça pousse les entreprises à licencier encore avant. Mais oui, mais on fait quoi? Regardez, Jean-François, vous allez avoir 51 ans. Donc, mettons, si vous voulez changer de boulot dans 5-6 ans, ça va être plus compliqué, par exemple.
C'est possible, mais à mon sens, nous rentrons dans une phase où on va avoir un énorme creux démographique. Pour prendre mon cas particulier, qui évidemment n'est que particulier, sur le projet sur lequel je travaille, il y avait des jeunes qui sortaient de formation, qui ont quitté le projet en 6 mois. Donc du coup, si vous voulez, le client n'est pas très satisfait quand il voit des gens une telle rotation.
Ah bah, c'est sûr
de toutes les façons.
C'est sûr qu'en ce moment, les jeunes sont moins fiables, Perico Légas, parce qu'on le voit notamment dans la restauration où effectivement, il y a un turnover incroyable, beaucoup plus qu'avant, parce qu'il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, parce que les jeunes ne veulent plus forcément faire le boulot que faisaient leurs parents. Quoi.
La valeur travail n'est pas perçue de la même façon par les nouvelles générations.
Par exemple, dans la restauration, tu ne vas pas embaucher un serveur qui a 65 ans. Enfin, ça, c'est compliqué quand même, dans les métiers difficiles.
S'il a la vocation et qu'il a envie de le faire. Mais c'est vrai que c'est rare.
Ouais. Jean-François, vous, quand vous étiez restaurateur, vous embauchiez plutôt des seniors ou plutôt des jeunes ?
Moi, j'embauchais, vu les horaires que nous proposions, plutôt des étudiants, puisque c'était plus un complément de rémunération qu'une rémunération à temps plein, puisque notre plage horaire de travail, c'était 11h-14h, pas plus. Donc, on ne pouvait pas proposer un CDI en temps plein, c'était impossible. Ouais.
Merci beaucoup Jean-François en tout cas d'avoir été avec nous, notre invité sur ce débat, et on est vraiment ravis de l'avoir, c'est Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Bonjour Benoît.
Bonjour, vous allez bien ?
Mais bien et vous ?
Ça va.
Benoît, est-ce qu'il faut une loi pour interdire de virer des seniors pour que les gens restent plus longtemps dans l'emploi ?
Surtout pas, parce que si on fait ça, on n'embauchera plus de seniors.
On n'en embauche pas, donc ça ne changera rien.
Le sujet aujourd'hui, les chiffres le montrent, il est plus de favoriser. Parce que les entreprises ont plutôt réussi ou amélioré, en tout cas, même si on reste un mauvais élève de l'Europe, on est clair, à les conserver. Le vrai sujet auquel le gouvernement, ou je ne sais pas qui devrait bien s'attaquer, c'est le sujet de faciliter l'embauche des seniors. Donc c'est pour ça que je pense qu'une mesure comme celle-là, elle risquerait d'avoir un effet inverse.
Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui les entreprises ont vraiment envie d'embaucher des seniors ?
Non. Il faut leur donner envie de le faire.
Mais comment on fait ?
Vous êtes marrant. Non, il y a plusieurs choses, en fait. Il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai vu que le Sénat avait proposé un espèce de CDI senior dans le débat sur les retraites. Au moins, je ne dis pas que c'est parfait, mais au moins, il propose quelque chose pour avoir une vraie politique de faciliter l'embauche des seniors. Alors que c'est un peu le défaut de ce projet qui ne... à part l'index, qui ne propose pas vraiment une vraie politique d'emploi des seniors. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que c'est la formule retenue par le Sénat ou est-ce que c'est une autre ? Ça, il faudra regarder. Mais sur le fond, il est évident qu'on peut pas continuer à considérer que les seniors vont se débrouiller. Quoi.
D'accord.
Donc ça, c'est un premier sujet. Je pense aussi que l'un des freins qu'on observe beaucoup sur l'emploi des seniors pour les embaucher, c'est la crainte de ne pas savoir les gérer dans le temps. On dit, vous embauchez quelqu'un à 58, 59, vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais en faire à 64, 65? Et vu la réforme des retraites, ça paraît...
Il partira à la retraite, à 64, donc
oui, problème. D'accord, maintenant, parce que c'est qu'on peut... Non, parce qu'il paraît qu'il y a une décote. Donc il peut aussi décider de rester, lui, jusqu'à
70.
Jusqu'à 70. Donc les gens se disent, les entreprises, elles ont une petite crainte quand même. Ce qu'on peut comprendre. Là, parce qu'elles ne sauront pas les gérer dans le temps, si vous voulez. L'autre point, en revanche, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de seniors dont l'objectif est d'atteindre ce qu'on appelle le taux plein.
Exactement.
Et donc, quand vous croisez ces deux informations, vous dites qu'on mettrait en place un contrat de travail normal, un CDI, qui pourrait être interrompu à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'entreprise. Au moment où le salarié est à taux plein, vous réussissez déjà à répondre à l'attente de seniors qui cherchent un emploi, et vous répondez d'une certaine manière à la crainte des entreprises d'embaucher des gens trop âgés.
Ah oui, c'est pas mal ça.
Comme je l'entendais tout à l'heure, je trouve que c'est prévisé ça, c'est pas qu'une affaire de salaire, l'histoire en fait. C'est aussi, mais qu'est-ce que je vais en faire jusqu'au bout si évidemment il décide de rester 70 ans ? Donc il faut réussir à corriger. Ça, c'est une forme. De même, je pense qu'il faut s'intéresser au taux de mobilité ou au taux de formation. On sait qu'à 55 ans, l'accès à la formation tombe dans les entreprises pour les plus de 55 ans. Pas que du fait de l'entreprise.
De toute façon, personne ne fait de formation, franchement.
Non, mais on le disait tout à l'heure. En fait, c'est pas que du fait de l'entreprise. C'est aussi du fait des gens eux-mêmes. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu veux me former à 55 ans? Donc là aussi, donc je pense que ça aussi, c'est un vrai défaut, quoi. Il faut s'en préoccuper à 50, 55. Après, c'est trop tard. Et puis, la troisième chose qui serait peut-être pas mal, c'est un peu sur le modèle danois. C'est-à-dire de mettre en place une sorte de pôle emploi dédié aux seniors. Parce qu'on sait qu'un senior qui perd son emploi à 57 ans, si au bout d'un an, il n'a pas retrouvé un emploi, sa capacité est extrêmement faible. Les Danois, ils ont mis en place un pôle emploi et les entreprises communiquent à ce pôle emploi des offres d'emploi qui peuvent être tenues par des seniors parce qu'elles n'ont pas de domaine physique bien évité. Ouais. Et voilà, donc nous, ce qu'on dit, et ce que moi je pousse beaucoup, c'est c'est d'avoir une vraie politique senior. Mais le fait de dire on interdit des licenciements de seniors, c'est pas une politique senior, ça marche pas.
Eh ben merci beaucoup Benoît Serre en tout cas d'avoir été avec nous et pour toutes ces idées qui sont de bonnes idées. On se demande pourquoi personne ne les a eues avant, ça c'est quand même encore hallucinant. On est avec Christophe qui nous appelle de Montreuil, et Christophe lui malheureusement il a été licencié lorsqu'il avait 59 ans. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour tout le monde.
Et merci d'être avec nous Christophe, mais vous avez été licencié à cause de votre âge Christophe?
Alors je dirais licenciement déguisé.
Ouais. C'est-à-dire
59 ans. Où le RH m'a convoqué, m'a dit bon voilà pour le travail que tu as à faire maintenant. J'avais de moins en moins de travail.
Et vous faisiez
tu
quoi,
as 59 ans, tu as le droit à 3 ans de chômage et à 62 ans tu pourras prendre ta retraite.
C'est ça.
Ah ouais. C'est l'employeur qui a décidé pour vous. Mais vous faisiez quel type d'emploi Christophe? Un métier difficile?
J'étais informaticien.
Bah alors où est le problème?
Le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai pas pu retrouver d'emploi.
Ouais.
Parce que les compétences que j'ai sont obsolètes sur le marché de l'emploi, et que je dirais dans mon entreprise, je n'ai pas eu suffisamment
de formation
pour me maintenir à un niveau ou évoluer.
Et aujourd'hui, Christophe, donc là, vous vous dites, en fait, je vais toucher ces 3 ans de chômage et je vais aller jusqu'à la retraite. Vous essayez encore de chercher ou plus du tout?
Là, je vais essayer de trouver. J'avais commencé une formation de reconversion dans le web.
Ouais.
Je dirais les conditions sont assez bizarres. C'est qu'à la suite de cette formation, il faut suivre un stage. D'accord. Ouais. Et il faut trouver un stage non payant. Pourquoi? Ça, c'est ma conseillère.
C'est énorme, ça commence troisième.
C'est que si à la suite du stage, je ne suis pas embauché par l'entreprise, mes allocations chômage seront recalculées sur la base du montant que je toucherai pendant le stage. Sachant que les stages sont payés entre, je dirais, grand maximum 1200 à 1500 euros, et qu'à l'heure actuelle, je touche un peu plus de 2000 euros d'allocations chômage.
Oui, et ce ne serait pas favorable.
Voilà. Donc, je dirais, j'ai pas été licencié. C'est comment on appelle ça?
Un plan social.
Non, c'est pas un plan social.
Un plan de départ.
Rupture conventionnelle.
Donc, vous avez quand même touché un chèque, Christophe.
J'ai quand même touché un chèque, je dirais la rupture conventionnelle, comment s'est-elle passée? Je dirais c'est beaucoup plus simple qu'un licenciement.
Tout à fait, c'est la loi Macron.
On m'a convoqué une première fois en me disant, on te propose tant, j'ai refusé. Derrière, on m'a mis la pression tous les jours, de plus en plus. Et puis au bout de 2-3 mois, je me suis dit, pour ta santé physique et mentale, accepte un chèque. Un petit peu plus élevé, et puis il part.
C'est terrible ce que vous racontez, Christophe, et malheureusement, vous n'êtes pas un cas isolé. Alors après, il y a aussi des gens qui sont contents d'avoir qu'on leur propose effectivement une rupture conventionnelle parce qu'ils prennent un chèque. Et alors, si en plus derrière tu retrouves tout de suite, là c'est le jackpot et c'est formidable. Il y a plein de cas comme celui de Christophe qui sont hyper difficiles parce qu'effectivement, il a été licencié uniquement à cause de son âge. Quoi.
Arrivé à son âge, 59 ans, 60 ans, les chiffres le disent. Mais pour retrouver un emploi après, c'est hyper, hyper compliqué. Quoi.
Et en tout cas, on vous souhaite bon courage, Christophe, et on espère que vous allez réussir dans votre recherche d'emploi. On est également avec Patrick, qui est chef d'entreprise à Marseille. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Patrick, vous voulez réagir sur ce débat, vous qui êtes chef d'entreprise justement. Est-ce que vous embauchez des seniors?
Alors, je n'embauche pas des seniors, mais je pense qu'il faut conserver les seniors dans l'entreprise, mais tout simplement leur affecter une tâche essentielle différente, qui est celle de la formation des jeunes. Aujourd'hui, dans le monde du bâtiment, quand on cherche, alors je parle pour mon entreprise en particulier, quand on cherche à recruter, nous avons une problématique essentielle, c'est qu'aujourd'hui, les formations ne sont plus du tout adéquates, que les jeunes qui sortent, même avec un niveau BTS aujourd'hui, ça correspond pour moi, grosso modo, à un niveau BEP d'il y a 20 ans. Donc, dire que c'est quand même très différent. Donc, on cherche à embaucher des jeunes qui n'ont pas du tout la qualification requise, pas le niveau, même le niveau théorique. Et je pense que la richesse d'un senior, il pourrait apporter ce complément de formation essentiel, accompagner les jeunes en entreprise pour les amener au niveau nécessaire pour qu'il soit efficace plus rapidement que c'est le cas aujourd'hui. Et pour qu'on ne se fatigue pas et que eux aussi ne se fatiguent pas, parce que comme ils ne répondent pas à nos attentes, et ben, au bout d'un moment, ils le sentent, ils s'en vont, ou alors parce que nous, comme ils nous sommes aussi impatients qu'ils deviennent rentables rapidement pour l'entreprise. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée. Il faudrait, dans ce dispositif, faire une formation gratuite par l'État pour les seniors, pour leur permettre de transmettre leur savoir, parce que on peut avoir un grand savoir et ne pas
être mauvais pédagogue.
Ouais, voilà. Et donc, et d'autre part, faire en sorte que les entreprises puissent avoir, parce que évidemment, il y a une charge supplémentaire pour les entreprises.
Bah oui, parce que vous n'allez pas payer quelqu'un de la même manière s'il est maçon ou s'il est conseiller en maçonnerie, quoi.
Tout à fait, mais le conseiller en maçonnerie, je le paye déjà, il était maçon, je vais continuer à le payer, mais simplement, il faudrait qu'on ait à ce moment-là, comme on le garde en entreprise, des allègements de charges significatives qui permettraient de faire deux choses. Un, le garder en entreprise et qu'il ne parte pas à la retraite. Deux, embaucher des jeunes et les former de façon adéquate.
Bah merci beaucoup Patrick pour ce point de vue. Et c'est vrai qu'un allègement de charges pour les seniors, bah, ça permettrait peut-être aussi aux entreprises. Par exemple, tu allèges les charges si tu as un employé de plus de 62
c'est
ans.
Une piste.
Et ça permettrait évidemment aux entreprises de continuer à employer.
Mais dans ces cas-là, si on allège les charges, on perd aussi de l'argent pour financer les retraites. Donc ça pose aussi plein d'autres questions.
Mais oui, mais tu auras moins besoin d'argent pour financer les retraites parce que les gens partiront plus tard à la retraite. Ça, c'est un cercle vicieux en fait.
Oui, et ils occupent aussi des emplois qui pourraient être occupés par des jeunes actuellement au chômage par ailleurs. Oui,
c'est possible. C'est possible aussi. Daniel, si apparemment vous pourriez conseiller les jeunes.
Votre échange, je disais qu'on n'allait pas s'en sortir du coup.
Non, mais tu vois, dans 10 ans, si on me disait, bah tiens, histoire de t'accompagner un petit peu, tu pourrais accompagner des jeunes pour leur apprendre le métier, etc. Ou tu dis, alors, ça me saoule, je préfère partir.
Alors, sache, Estelle, que depuis le début de cette saison, nous avons de 20h à 22h la première partie de l'émission qui s'appelle Génération After.
Et je sais.
Et que quelque part, c'est un peu nos enfants.
C'est beau ce que vous dites.
Ils sont amenés à prendre notre place, à nous pousser dehors.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et il y a des jeunes.
Mais le plus tard possible.
Il y a des journalistes de moins de 30 ans dans ce Génération After.
Oui. Vous avez plein de messages, Rémi, sur l'appli RMC.
Message de Nicolas qui nous dit si vous interdisez le licenciement des personnes de plus de 55 ans, par exemple, l'effet pervers, c'est que l'on n'embauche plus des personnes de cet âge-là, puisqu'on ne peut plus, on ne pourra pas les virer. On ne prend pas le risque d'avoir un poids sur les bras. On prend un jeune. Voilà ce que dit Nicolas. Il ne le souhaite pas, mais il constate. Eric, il nous dit, c'est un sujet selon moi qui concerne surtout les grosses entreprises. Nous, dans nos PME, nos anciens, on les garde car ils forment nos jeunes et à aucun moment, depuis 70 ans que l'on existe dans mon entreprise, on a mis à la porte un ancien avant son départ à la retraite. On a même tendance à lui demander de faire du rabat.
Mais à part un ou deux exemples dans les témoignages qu'on a entendus, on parle peu finalement de ce que produit la personne. Je pense à l'exemple dont tu m'as parlé, à notre exemple, même si t'es beaucoup plus jeune que moi. Mais nous, on va dire que c'est un petit peu plus simple dans notre métier parce que, à partir du moment où on t'écoute plus, ou donc tu n'as plus le résultat de l'audience qui dit que ça marche toujours, on va pas te mettre dehors. Parce qu'il y aura un résultat. Mais dans plein d'autres métiers, professions, j'imagine que, alors effectivement, j'ai bien le sentiment qu'il y a d'autres raisons qui commandent à l'éviction du vieux parce que le jeune va coûter moins cher à nous. Mais il doit quand même y avoir sur le terrain quelque chose pour noter, pour se rendre compte de si la personne, passée 55 ans, elle est encore compétente, apte, est-ce qu'elle produit, est-ce qu'elle est performante dans son entreprise.
Ça
devrait être ça.
Mais il y a la perception, tu sais très bien. Prends l'exemple d'un vendeur auto qui aurait 50 ou 60 ans et qui continue à vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de véhicules. Il n'empêche que pour l'image, je dis pas que c'est.
Rémi,
dans un certain nombre d'entreprises, on dit oui, mais.
Il continue à beaucoup vendre de bagnoles dans sa concession.
Ils vont le garder.
Quand même.
Oui, mais t'as des secteurs.
Après, s'il a un look années 80, que le patron aille lui dire écoute, tu vas me changer un petit peu ton look là.
Enlève ton bandana, s'il te plaît.
Pour te réadapter tout. Et ça, je trouve qu'il n'y a aucun mal à ça. Justement, le vieux doit faire attention à
s'adapter sur les
Oui, mais t'as des secteurs.
À s'adapter un petit peu à son époque.
T'as des secteurs, effectivement, dans la tech, t'as pas.
J'imagine, Estelle, t'as pas envie. Qu'on te dise, je sais pas, dans 5 ans, que la vieille mémère, quoi. T'as envie de rester jeune,
Je partirai avant.
Et avec dignité.
Partir avant.
Avant qu'on m'appelle madame. Croyez-moi, je serai pas.
Le jour où on t'appelle madame, ce sera un signal.
Je m'en vais.
Ah, tu veux pas qu'on dise, oh, Estelle, oh la daronne.
Mais ça va encore.
Ah, tu vois.
Bien sûr, il y a plein de termes. Péricot, vous voulez durer jusqu'à quand?
À moi, jusqu'à ma mort.
Ah, ah oui, d'accord, oui. Ben, j'avais pas prévu ça.
Ah, non, non, dire, non,
on va faire un petit.
J'admire les gens qui peuvent prendre leur retraite.
D'accord.
Eh bien, je vois. D'ailleurs, c'est mes copains.
Oui, je toi, tu plus... cultives ta maturité.
Ah non, mais je ne peux plus leur parler. Ils sont surchargés d'activités.
Ah,
mes copains à la retraite, je ne peux plus les joindre. Ouais. Ils sont partis, ils sont là,
ma chose.
Mais moi, ça, en même temps, moi, j'adore
moi
l'idée.
Aussi, moi aussi, j'adorais.
J'adore l'idée de. Moi, je combattrais pas l'idée de la retraite.
Ah ouais, moi, j'irais jouer au poker.
Voilà,
c'est une vraie conquête.
J'ai mis l'activité.
Il y a des gens qui jamais
risquent.
Voilà.
L'activité
poker, c'est pas mal,
ça. Ah oui, oui, moi, j'ai déjà prévu une petite année sabbatique.
D'accord.
On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il arrêter, interdire le licenciement, pardon, des seniors en entreprise.
C'est une bonne idée pour une majorité de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, pour 57% d'entre eux.
C'est ceux qui ont plus de 60 ans
peut-être.
Qui ont répondu à ce sondage. Allez, dans un instant, Amélie Rosic, RMC, s'engage pour vous. On va parler de la prime carburant de 100 euros qui devait être versée à 10 millions de Français. Ça marche pas des masses et on vous expliquera pourquoi. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h32 sur RMC, RMC Story, c'est l'heure à laquelle on vous aide chaque jour dans Estelle Midi. Voici RMC s'engage pour vous.
RMC Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et avec Amélie Rosic, aujourd'hui on va parler de la fameuse prime carburant qui devait être versée à 10 millions de Français, mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu,
ça coince.
Ce qu'on pouvait prévoir.
Ça coince un petit peu, c'est ce coup de pouce de l'État, vous savez, qui devait permettre d'aider les automobilistes les plus modestes, mais ceux qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Donc c'était vraiment à destination des travailleurs les plus modestes, mais ce chèque de 100 euros est plus difficile à toucher que prévu. Et oui, ce sont nos auditeurs à RMC qui nous ont alertés. Aurore, par exemple, elle a fait sa demande il y a plus d'un mois et n'a toujours aucune nouvelle.
Ça me ferait quand même deux pleins pour le mois. Et là, je ne l'ai pas. Je le fais comme je peux. Hein. Avec le prix du gaz, de l'électricité, tout ça, on fait attention à tout. À part les courses, nous, on ne fait plus rien. Alors, là, au restaurant, il y a un moment qu'on n'est plus allé. Hein.
Des sacrifices pour joindre les deux bouts, hein, au quotidien, c'est aussi ce que doit faire Odette, qui nous a contacté à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Elle a 62 ans, elle travaille toujours et elle roule 100 km par jour pour se rendre au travail. Elle attend la prime carburant depuis bientôt deux mois et après plusieurs coups de fil au service dédié, un numéro que vous trouvez très facilement sur Internet, voici ce qu'on lui a répondu.
On a bien pris votre demande à court, mais c'est vrai qu'on a un bug, on a un fichier qui remonte et on ne sait pas comment corriger cela. Donc, voilà où j'en suis. Donc, ils m'ont redemandé des documents, ma carte grise, une attestation sur l'honneur et depuis, c'est bloqué.
C'est un peu embêtant, évidemment. Amélie, tous ces blocages, la machine à prime est visiblement en panne. Que se passe-t-il?
Alors, le gouvernement vantait, souvenez-vous, une démarche simplifiée qui pouvait se faire intégralement
tout
en ligne.
Fait.
Vous l'avez bien compris, nous, en enquêtant, on a découvert en fait une suite de bugs. Le premier, la plateforme refusait d'enregistrer les automobilistes qui avaient des plaques d'immatriculation datant d'avant 2009.
Ah, vous savez que
ça a changé.
On avait été alerté.
Exactement. Ce bug a été identifié en partie grâce aux auditeurs d'RMC et d'Estelle Midi. Oui, tout à fait. Et donc, ce bug qui a été détecté a été résolu fin février. Sauf que ce n'est pas terminé. Ensuite, il y a eu des problèmes de transmission de données entre les assureurs et l'État. Résultat, la plateforme, elle a rejeté en fait injustement 100 000 dossiers pour défaut d'assurance. Parce qu'en fait, les données remontaient pas des assureurs. Donc, comme ils ne trouvaient pas d'assurance, ils se sont des défauts d'assurance, 100 000 dossiers rejetés. Sauf que ça, ils ne l'ont même pas expliqué aux bénéficiaires. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à notre auditrice Odette. Son dossier a été rejeté, mais elle n'a pas été tenue informée. Elle voyait juste en attente sur la plateforme en ligne. Et surtout, elle ne savait pas du tout que c'était pour défaut d'assurance. À ce moment-là, elle aurait pu tout simplement appeler son assurance et puis fournir le document et ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Enfin, le délai moyen de traitement des dossiers annoncé est de 14 jours. Mais vous l'avez bien compris, il est largement dépassé dans de nombreux cas. Là encore, sans que les demandeurs sachent pourquoi. Pourquoi ? C'est bien le problème. Pour Aurore, par exemple, vous avez entendu un peu plus tôt, il a fallu notre intervention auprès de la Direction Générale des Finances Publiques pour savoir qu'en fait, son dossier avait bien été accepté. Simplement, il manquait un document. La Direction des Finances Publiques trouvait plus son RIB pour lui faire le virement des 100 euros.
Sauf que
ça, personne ne lui a dit jusqu'à ce qu'on les appelle. Et donc, évidemment, elle ne pouvait pas le transmettre à nouveau.
Et donc, elle a touché son truc.
Absolument.
Eh ben ça c'est une bonne nouvelle.
Ouais, c'est une bonne nouvelle.
Mais Amélie, que répond le gouvernement quand vous lui dites il y a un petit problème?
Alors déjà évidemment le ministère de l'économie et des finances, si ils sont au courant des bugs. bugs et qui ont pu d'ailleurs en décourager certains. Vous l'avez dit, il y avait donc 10 millions de ménages normalement éligibles, parce que c'est sous condition de ressources, en fonction qu'on ait une famille. 10 millions de ménages éligibles, et en fait, il n'y en a que la moitié qui sont allés demander, qui ont fait la démarche pour demander le chèque. Voilà.
Ça n'aurait rien changé, mais donc, pourquoi pas le chèque.
La prime, cette prime, elle devait s'arrêter fin février, et en fait, pour cette raison, le ministère a décidé de la prolonger jusqu'au 31 mars. Donc, si vous nous écoutez, vous avez quand même jusqu'au 31 mars pour faire la demande. Ça vaut le coup de le faire. Visiblement, vous êtes au moins 5 millions dans la nature à ne pas avoir fait la demande. Donc, faites-le. En tout cas, au cabinet du ministre Bruno Le Maire, on préfère surtout se féliciter des chiffres. On nous dit 6 millions de demandes et déjà plus de la moitié des chèques qui ont été versés. C'est quand même pas mal. Voilà ce qu'on nous dit. S'agissant des bugs, les problèmes sont à la marge, nous explique-t-on. Avant de conclure, on parle d'argent public. C'est quand même bien normal qu'il y ait un maximum de vérification. Bon. Voilà, chacun sera.
C'est ce qu'on nous a dit au départ.
Chacun sera juge de ce système. En tout cas, à l'heure où l'on se parle, il y avait, vous l'avez bien compris, je résume, 10 millions de ménages éligibles, seulement à peine plus de la moitié qui ont fait leur demande, et seulement la moitié de cette moitié, soit 3,5 millions, qui ont effectivement touché leur chèque de 100 euros pour un dispositif qui a débuté début janvier.
Eh ben heureusement que vous êtes là, Amélie Rosic, pour régler tous ces problèmes, tous ces soucis. On parle de quoi demain ?
Est-ce que vous vous souvenez, lundi, on a parlé d'Orpea ?
Oui.
Qui ne payait pas ses salariés ?
Faut pas déconner, quoi.
Eh ben, c'est pas terminé. C'est-à-dire que ça ne touche pas seulement les salariés d'Orpea.
Ah mince !
Eh oui, vous saurez tout ça demain avec Johanna Chabas.
Eh ben, merci beaucoup, Amélie Rosic. Et puis tous les jours, RMC s'engage pour vous à l'entour de 14h30 dans Estelle Midi. Et puis en podcast, bien sûr, sur l'appli RMC, sur rmc.fr et sur vos applis de téléchargement. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec le classement des sites les plus visités en France. Il y a des surprises. Et puis les coupures sites. D'électricité.
Hein, les sites.
Internet.
Les touristiques.
Touristique.
Les lieux touristiques.
Touristiques.
Bah oui. Ah, ouais, oui. J'ai cru site non. Internet. Moi.
Les sites touristiques. Bon. Voilà. Et il y a des surprises.
Bah, moi aussi, voilà.
J'avais dit la Tour Eiffel, et bah c'est pas ça, dites donc.
Mont Saint-Michel, voyons. Non.
Beaubourg.
Non. Mais non.
Non. On vous dira ça dans un instant sur RMC.
Le Louvre.
Non.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h43 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi, c'est la dernière partie, et dans cette dernière partie, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait surtout pas rater aujourd'hui. Voici les immanquables.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Avec toujours Rémi Barré, Perry Collégas, Anne-Sophie Saint-Père et Daniel Riolo. On en parlait il y a quelques minutes. Rémi, nous allons démarrer avec le classement du jour.
L'agence gouvernementale touristique Atout France vient de dévoiler le classement des sites touristiques les plus visités en France, donc par les touristes en 2022, touristes français et étrangers évidemment. Alors, selon vous, qui arrive en tête ?
Moi j'ai dit la Tour Eiffel et tu m'as dit non. Perico.
Hélas, c'est pas français.
C'est en France.
Si, c'est français.
C'est Disneyland.
Oui.
C'est une kermesse.
Oui, mais
Disneyland de Paris.
C'est pas culturel.
Disneyland de Paris, l'endroit le plus visité en France et en Europe. Disneyland de Paris, l'endroit le plus visité en France et en Europe au cours de l'année 2022. Le parc d'attractions a accueilli environ 15 millions de touristes, un record de visites sur tout le continent européen.
Et alors derrière?
Alors derrière, selon vous, allez,
rapidement. Bah c'est marqué sur le tableau là.
Ça y est, c'est fait. Bon, alors le Louvre, Versailles, Tour Eiffel et le Centre Pompidou.
Bah c'est normal, en même temps la Tour Eiffel a reculé, on peut plus y aller, les queues sont interminables, c'est un coupe-gorge en bas.
C'est vrai.
Donc les gens ils vont de moins en moins.
Belle vision de la France.
Mais dans tous les guides touristiques maintenant et dans toutes les agences à l'étranger, on le dit, faites attention à la Tour Eiffel, c'est un coupe-gorge. C'est un coupe-gorge. Voilà, c'est tout. Voilà ce qui est devenu ce que sont devenus certains monuments en France depuis la gestion de madame le maire.
Oui. Enfin, il y a pas les châteaux de la Loire. Moi, je suis très étonné. Je pense que les Chambord, par exemple.
C'est compliqué d'aller au château de la Loire.
Non, ils sont en bonne position et Chambord reste. Mais bon, ça, c'est pas un monument historique. C'est un monument commercial. C'est
Disney.
C'est une foire.
Bah oui, c'est ça.
C'est pas un monument historique. Il y a rien de culturel.
T'allais bien à la fête foraine quand t'étais petit.
C'est une fête foraine très marquée par la culture américaine.
C'est une fête foraine grande. C'est tout, c'est le même esprit.
D'accord.
Mais pourquoi ça te pose un problème?
Parce que c'est pas culturel. Parce que la fête foraine, j'y allais pour m'amuser.
Quand t'étais petit, tu faisais que des. Moi aussi, je veux emmener les enfants autant en activité culturelle que là. Mais moi, en plus, j'ai pas d'attraction, ça me fatigue. Mais il n'empêche que je peux comprendre.
Non, Daniel, je dissocie. Je dissocie la fête foraine ludique, on va pour s'amuser, une foire du trône, il y avait tout ce qu'on voulait. Le parc Astérix, là. et un monument historique, un patrimoine culturel historique que l'on va visiter.
Mais là, c'est les touristes.
Pour une raison vraiment touristique. Pour, voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, enfin, je me lamente.
Ça te lamente. Ça fait de l'argent à la France.
Parce que c'est une commune de Marne-la-Vallée, le département de Seine-et-Marne est très content.
Je ne raisonne pas que fric. Ça me fait mal que la France, qui est le pays du monde le plus visité sur le plan touristique, la première destination soit un emblème de la culture américaine où on mange du gras et du mou et du sucré et où on s'abétit l'esprit.
En bas de la Tour Eiffel, tu vas t'acheter une gaufre.
Et bah, la Tour Eiffel, elle va manger en bas, les saloperies qu'on te donne, tu vas voir, si tu vas pas être malade.
Non, mais la Tour Eiffel ne fait pas profit des petits commerçants qui sont en bas. Là, tout est fric, là.
Non, la Tour Eiffel te propose des crêpes et des gaufres.
Oui, d'accord,
moisies,
c'est pas la même échelle.
Ça, ils sont pas moisis.
À Versailles, on se tient un peu mieux.
Au moins, quand t'as monté la Tour Eiffel entièrement par les escaliers, t'as perdu les calories de la saloperie.
Tu vas au resto au premier, et ça coûte une blinde, personne peut y aller. Donc, merci.
Bon, Anne-Sophie Saint-Père, votre sentiment sur ce classement?
Bah, je suis assez surprise parce qu'effectivement, j'aurais absolument pas deviné que c'était ça.
15 millions.
Effectivement, en fait, ce que je trouve un peu triste, c'est que Disneyland, il y a le même, enfin, il y a les répliques exactes dans plein d'autres endroits du monde. Donc, pourquoi aller en France voir ça alors qu'on a des spécificités
Parce que beaucoup d'Allemands, Néerlandais, Espagnols.
Mais mais c'est vrai que c'est pas une spécificité française. C'est il y a exactement les mêmes. C'est un peu.
D'ailleurs, ça s'appelle Disneyland Europe.
Paris.
Paris, Europe.
Non, c'est fini, n'importe ça, quoi. C'était avant. Ouais. Ça s'appelle Disneyland Paris.
C'est Disneyland de l'Europe.
Non.
Euro Disney, ça s'appelait
avant,
Euro
Disney.
Disney.
C'est fini.
Ça s'appelle.
D'accord, c'est la destination européenne de Disneyland. Toute l'Europe va là parce que.
Mais tant mieux, ça nous rapporte plein de sous.
Mais oui, on va pas se plaindre.
Alors, je n'ai pas que cette lecture-là de la vie. Vous voyez, mais c'est important, d'accord.
Donc, comme c'est important. Personne ne t'oblige à y aller.
Bien sûr.
Et donc, satisfais-toi pour le côté économique.
Et comme tous les touristes sont à Disneyland, tu peux aller au Louvre et voir moins de monde.
Voilà.
C'est ça.
Parce que vous pensez qu'après Disneyland, ils prennent le RER, ils vont au Louvre.
Alors après, ça peut vous rassurer, il y a énormément de monde au Louvre.
Oui, je sais. C'est vraiment malheureux d'ailleurs.
Sois rassuré.
Enfin, c'est bien, mais enfin, c'est
de toute manière, on ne peut plus mettre les pieds nulle part. La mondialisation a fait que l'humanité entière se déplace sur la planète et on ne peut plus aller nulle part. Voilà, c'est plus fréquentable.
Enfin, mais tu ne vas pas te plaindre parce que les gens viennent voir nos merveilles en France quand même.
Les prix de l'avion ont augmenté. Rassure-toi, on ne prendra plus l'avion dernier part.
Peut-être que cette retarification normale d'un transport international fait qu'il y aura moins de fréquences. Voilà. Mais quand on a des Chinois qui arrivent, ils savent même pas où ils sont, c'est horrible, ils savent même pas, on les travaille avec des
drapeaux. Mais en fait, t'es bien content pour tes restaurants, tu
vas dans les boutiques et dans les restaurants, ils font marcher l'économie.
Je me contenterai d'une soupe aux poireaux avec une bougie, hein, une voiture à cheval s'il fallait.
C'est sympa la vie avec vous.
Bah, oui, ma chérie, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça.
Il y a quand même des gens qui ont des visions de la vie. Franchement, j'ai pas envie de vivre.
Humaine, à échelle humaine.
Pour ceux qui veulent plus, pas d'avion, pas d'arrosage de ceci, pas de piscine, de machin. L'autre, il veut manger une soupe avec des poireaux et allumé à la bougie. Oh putain, dis donc, qu'est-ce que vous êtes triste.
Mais tu viens quand tu veux.
Ah bah tiens, il y a un truc qui va te faire sourire.
J'aime bien les poireaux.
Les coupures du jour.
Des agents du secteur du gaz et de l'électricité, CGT, ont coupé aujourd'hui le courant au Stade de France, sur le chantier du village olympique et dans le quartier au niveau de la zone commerciale de Saint-Denis. Action menée dans le cadre du mouvement social contre la réforme des retraites.
Bon, au Stade de France, ça gênait pas trop. Oui, c'est pas très malin, ça, Anne-Sophie Saint-Père.
Bah si, parce que ça va finir par gêner ça montre que la mobilisation continue.
C'est illégal, je rappelle. Enfin, juste.
Pardon.
C'est illégal.
C'est pas grave, la contestation et le communisme passera par l'illégalité.
Laissez parler Anne-Sophie.
Mais que ce soit, mais il y a toujours eu des contestations avec des pratiques illégales. Les suffragettes, elles ont obtenu le droit de vote en commettant du vandalisme, des dégradations, des incendies. Donc oui, pour des combats justes, ça peut arriver. Il se trouve que là, on est face à une réforme qui est injuste, qui est massivement rejetée. Donc ce type d'action risque de se prolonger.
Daniel, vous êtes contre, j'imagine ?
Ah ben, il faut encore que j'en parle. Je l'ai interrompu en plus pour dire ce que je pensais. Pardonne-moi
mais
d'ailleurs.
Mais t'as pas bien entendu.
Comme d'habitude. Évidemment, c'est illégal.
Ben d'accord, enfin bon.
Et ben donc voilà.
Donc, ah d'accord, donc
c'est. En même temps, t'aimes pas trop les interdictions, donc.
Oui.
Exactement.
Bon, Perico Légas, vous comprenez quand même que ce mécontentement puisse être après donner lieu à ce genre de coupure, justement ?
On est dans la contestation sociale. Toutes les armes ne sont pas bonnes pour revendiquer une juste cause. Si la retraite est une juste cause, il y a des seuils que l'on ne peut pas franchir quand on est surtout un syndicat officiel. Vous voyez ce que je veux dire. Que ce soit
le Stade de France, encore une fois, il n'y a pas de match, c'est pas très gênant, quoi.
Oui, mais par principe, c'est l'ouverture.
Une galerie commerciale, c'est embêtant. Oui.
Ouais, mais s'ils ont que ça, vous voyez, en plus, ça dessert leur cause. Je suis pas sûr que les gens qui les soutiennent participent cette façon de partagent cette façon. Par contre, s'ils peuvent nous couper les courants pendant les Jeux Olympiques, ça serait vachement.
Ah non, certainement pas.
Ah, très bien, complètement, là. Puis plus rien. Tout le monde s'en va, la terminer, la dégager. Hop, ah ouais, fini.
Alors,
Péricot,
il veut pas
un touriste en France. Ouais. Il veut que rien ne fonctionne. En fait, il veut. Ouais, c'est la carriole. En même temps, c'est la carriole. C'est les chevaux, la carriole, la soupe aux poireaux.
En même temps, il est logique. Les JO 2024, c'est pas très soupe aux poireaux.
Je vous taper. Je veux rester tranquillement chez moi.
Tu nous rates la maison.
Et pourquoi tu vas pas chez toi? Prends-toi une maison à la campagne et laisse-nous tranquille.
Ça va finir comme ça. Ça va finir comme ça.
Vas-y.
Je vais aller chez Rémi voilà. À Cambrai voilà. Et là-bas tout le monde nous foutra la paix.
C'est quand même formidable tous ces gens qui veulent obliger les autres à vivre d'une certaine façon. Moi j'emmerde personne moi.
Enfin, ça dépend.
Non, mais moi, je demande pas aux gens de vivre d'une certaine façon, mais qu'on laisse les gens libres de leur choix.
Je vais regarder mon oreille gauche aujourd'hui, quand même.
Tu nous obliges à avoir des piscines. On veut pas de piscine. Tu veux qu'on ait des piscines?
Non, je dis pas. Tu dis que t'en construis une si t'as envie.
Excusez-moi. Est-ce qu'on peut terminer les avantages avec les chiffres du jour qui sont très intéressants?
En moins d'un an, la santé mentale des salariés s'est encore dégradée. C'est ce que révèle un baromètre OpinionWay réalisé par le cabinet Empreinte Humaine, spécialisé sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail. Près de la moitié des salariés, 44%, présentent une détresse psychologique, un état qui recouvre à la fois des symptômes de dépression et d'épuisement, un chiffre en hausse de 3 points par rapport à juin 2022.
Ça vous étonne, Péricot ?
Moi, je ne présente pas de signes de défaillance mentale, mais quelquefois, effectivement, je reconnais qu'il y a des contextes où je vois un effondrement du comportement, du niveau culturel, de la compétence, de la conscience professionnelle.
En entreprise ?
En entreprise.
Mais c'est-à-dire ?
C'est pas la compétence là qui est en cause, les gens sont épuisés, oui, mais et dépressifs.
Un rien les épuise.
Ah. Ah d'accord.
Un rien les épuise. On se noie dans un verre d'eau. Ah non. Il y a des souffrances légitimes. Il y a toujours eu des tortionnaires. Il y a toujours eu des abus. Mais la fragilité aujourd'hui de l'être humain dans le cadre professionnel a pris des proportions extrêmement inquiétantes. Alors il y a des cas où c'est totalement justifié. C'est normal parce que malgré tout la pression existe. D'ailleurs justement comme il y a plus de pression physique, la cadence avec les pointeuses, là, il y a des gens qui sont en train de péter des plombs. Voilà. Et voilà. Mais il y a aussi des gens que ça rend con. Vous voyez. C'est ça le problème à un moment donné, voilà. Et puis la conscience professionnelle, c'est quand même quelque chose qui protège, voyez. Mais comme on a insulté la valeur travail et que le travail est devenu quelque chose de fastidieux et d'humiliant, eh ben il y a des gens qui supportent pas de travailler. Ça, c'est un vrai problème.
Après,
c'est
surtout dans des métiers de bureau, vous voyez. Enfin, c'est compliqué. Vous faites.
Mais même un studio de télé ici, quelquefois, c'est éprouvant, vous voyez. La concentration.
Mais vous devriez pas rigoler.
Non, mais je vous dis.
Pas rigoler avec ça.
Non, je rigole pas avec ça. Bah, mais c'est vrai, quelquefois. Non, mais nous sommes le reflet aussi quelquefois de ce genre de tension.
Anne-Sophie.
Moi, je suis pas tellement étonnée parce qu'en fait, aujourd'hui, on a quand même un projet qui est une baisse des coûts de production en resserrant au maximum sur le travail. On est tout le temps en train de parler de la valeur travail, mais quand même, l'augmentation des salaires, c'est hors de question. Donc, c'est la valeur travail, mais sans l'argent. Hein. Il y a la valeur dividende, la valeur rente immobilière, mais l'argent, le travail, on ne donne pas beaucoup d'argent. Par contre, on a des exigences sur la rentabilité, sur les cadences. Et donc, c'est normal que les gens craquent, qu'ils n'y voient plus forcément beaucoup de sens. Le travail est de plus en plus mesuré pour être de plus en plus performant sur des critères qui sont pas forcément très pertinents. Je pense tout le monde médical, mais y compris dans la police, la politique du chiffre, dans plein de secteurs, on a des objectifs qui apportent une perte de sens au boulot. C'est moins bien payé, les enseignants sont moins payés. Enfin, on refuse des augmentations de salaire alors qu'on est dans une inflation. Et il faut toujours baisser les coûts de production, mais par contre, il faut jamais toucher aux dividendes. Donc c'est le travailleur qui
tout est rentabilité.
Donc c'est normal que les gens craquent.
Je suis d'accord avec vous.
Et on parle de valeur travail, mais on ne donne aucune vraie valeur au travail. En fait, on pressurise le travailleur aujourd'hui.
Un qui n'est pas en burn-out, c'est Vincent Moscato, le super Moscato Show. Salut Vincent.
Des fois, je suis en burn-out à la plage.
Ouais, c'est rare. C'est ça.
Ça m'arrive.
Vous avez parlé du PSG ou pas ?
Quand mon maillot est bien serré. Oui, on va parler du PSG. Bien entendu.
Ah oui.
On va dire à qui la faute. Est-ce que eux, la valeur travail, est-ce qu'ils l'ont, le PSG?
Je crois pas, non.
Sur
Riolo. Pas hier soir, en tout cas.
Non, mais c'est important, ce qu'ils l'ont.
Il y avait un joueur ou deux qui l'avaient hier, quand même.
D'après moi, ils doivent être pour le travail universel, tu vois, le salaire universel.
Il y en a qui ont couru hier soir, j'en ai vu deux ou trois qui couraient.
Ah ouais, j'en ai vu deux ou trois qui couraient, mais pas vite. Le problème, la composition de Fabien Galthié pour aller en Angleterre, on va en parler. C'est un peu curieux, vous voyez, pour aller en Angleterre, c'est le crunch. C'est ça, le crunch. Hein?
Eh ben, on vous laisse, Vincent, 15h, 18h, le Super Moscato Show. Et nous, on se retrouve demain, midi, 15h, dans Estelle Midi. Salut à tous et bonne fin de journée.